À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
De retour à deux, c'est mieux. Mon invité aujourd'hui, Annick Dumontet. Salut, Annick.
Allô?
Comment vas-tu?
Ça va tellement bien. Merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. La dernière fois que tu es venu nous voir, c'était pour ton premier livre de recettes.
Mm-hmm.
Là, on en est au deuxième. Donc, ça veut dire que la première expérience a été concluante pour toi?
Ça a super bien fonctionné. Trois fois meilleur vendeur. Tout de suite, on a enclenché pour un deuxième. Puis là, c'était vraiment un genre différent.
Parce que là, tu repartais à zéro. Parce que le premier, c'était des recettes qui faisaient partie de ta famille, de ton environnement.
Oui,
le premier. L'homme année, on a fait le tour de ce sujet-là. Donc, on repart à neuf.
Oui, puis je savais pas où j'allais m'en aller puis comment j'allais m'y prendre. Puis finalement, il y a quelqu'un dans l'équipe des éditions La Semaine qui a eu l'idée de faire avec une thématique particulière. Là, on a choisi les fromages parce que comme je fais plus de 65 villes par année au Québec, des fromageries, il y en a partout. Puis les Québécois adorent le fromage. C'est hallucinant comment les Québécois aiment ça. Puis on s'est dit, on est des grands, grands producteurs de fromage depuis, je te dirais, les 15 dernières années. On est monté en flèche dans la diversité, dans la qualité. Puis on en parle, mais pas tant que ça.
On les connaît pas, j'ai l'impression. Hein? Est-ce que ça se peut?
Ben non, t'as totalement raison. Je te dirais que on en connaît quelques-uns. Souvent, on va coller à ceux-là qu'on aime et qu'on connaît. Et quand on va souvent à l'épicerie aussi dans les comptoirs à fromage, il y en a qui viennent de partout.
Oui.
Puis, on se pose pas toujours la question, est-ce qu'il y a l'équivalent en produits québécois, alors qu'on devrait le faire. Mais je me suis fait aider par Pierre Vigeant, qui est un artisan cuisinier, parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Et quand j'ai vu que Ricardo, lui, a à peu près 6 personnes qui l'aident à faire les recettes, j'ai dit, ben moi aussi, je vais me prendre.
Oui, oui, il faut.
Et on a mangé du fromage, là. Je pense que j'ai un doctorat en fromage maintenant. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai mangé. Et je ne m'attendais pas à faire autant d'aussi belles découvertes.
Est-ce qu'on trouve à peu près l'équivalent de tout ici au Québec?
Oui.
Parce que là, on connaît beaucoup les fromages français,
oui,
bien sûr. Mais oui, est-ce qu'on trouve l'équivalent québécois?
Exactement, oui. Moi, j'étais sûre, je me disais, bon, de la mozzarella, des bouffalas, on n'a pas de boufflonne ici, on n'en trouvera pas. Non, on a un troupeau de boufflonne et on fait un très, très bon mozzarella, des bouffalas. J'aime beaucoup aussi la rondolée ou le boursin, tu sais.
Oui.
J'aime ça depuis que je suis tout petit. Je me disais, y a-t-il un équivalent? Lui qu'on vend, le boursin, ici, il est confectionné ici, mais c'est quand même d'origine française, c'est quand même la France. Mais non, le fréchette, on en fait un qui s'appelle le fréchette, qui est un fromage à la crème avec des fines herbes, avec de l'ail dedans. J'ai dit, oh ouais, ça existe! Tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Un fromage avec des champignons dedans, mais il y a la version du Oka avec des champignons. J'ai toujours trouvé quelque chose. C'est formidable. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le château de Bourgogne, qui est comme un beurre, un triple crème qui est hallucinant. Ben, il y a le riz aux pelles qui... Il y a toujours quelque chose. Il y en a mille et un, comme dans l'annonce.
Oui, oui.
Alors, on trouve toujours un peu l'équivalent, oui.
Ben, justement, il y a des pubs parce que les gens les connaissent pas tant que ça, ces différentes sortes de fromages-là. Donc, ce livre-là aide à faire connaître ces producteurs-là. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont collaboré avec plaisir et qui t'ont remercié de tout ça?
Bien, je te dirais que nous, on a été, à un moment donné, il y avait un salon du fromage à Montréal. Ça tombait, tu sais, c'est comme un miracle. On
oui,
commence
oui
à travailler là-dessus.
Ils sont tous à la même place.
En même temps. Bon, j'ai fait 2 crises de foie dans la même journée. Mais là, on les a vraiment découverts, goûtés. On a rencontré les producteurs. Puis les producteurs de fromage, souvent... Et c'est des petites entreprises quand même, mm-hmm, tu sais, et ils travaillent tellement fort, sont tellement gentils, communiquent tellement bien leur passion, parce que pour qu'un producteur de fromage puisse faire un bon fromage, le faire connaître partout, ça prend des passionnés, sinon c'est sûr, ça marche pas, c'est clair. Il y en a déjà beaucoup dans les comptoirs, ils s'en iraient pas là-dedans si c'était pas des vendus fous crackpots de fromage. Alors ces gens-là, quand on les rencontre, sont fins, sont accueillants, il y en a qui nous ont reçus à leur ferme, et... J'ai rarement vu des gens, tu sais, ben, en agriculture, c'est
oui,
souvent
oui,
des gens
oui,
très accueillants.
Effectivement.
Mais là, particulièrement, je dois te dire que nous, on a été choyés et frappés par l'accueil de ces gens-là, puis à quel point ils ont envie de partager leur passion. Puis, Je pense pas que le Québécois fasse ça parce qu'il n'est pas intéressé. C'est plus parce que quand
il
on va à l'épicerie, c'est la course aussi.
Oh oui.
Il y en a quelques-uns qu'on connaît. Oups, on passe à côté du comptoir à fromage, on en prend deux, trois. Puis par la suite, il y a tout le temps l'espèce de fromage générique qu'on achète pour le spaghetti des enfants, pour faire des grilled cheese. Alors qu'on devrait dire, ah tiens, tiens, cette semaine, j'achèterai pas cette brique-là qui est dans une marque très commerciale ou dans une marque sans nom. Je vais aller ailleurs. Ça ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher, mais ça fait travailler des plus petits producteurs. Oui. Ça nous fait découvrir des choses. Et les enfants aiment ça. Moi, mon fils là, a été présent tout au long de cette aventure.
Ben, le fromage, généralement, chez les enfants, tu te trompes à peu près pas. Là.
Non, je sais. Puis, et lui, la passion de... Écoute, les endroits, premièrement, ah, ça vient d'où? Il montrait c'était où sur la map du Québec. Les âges... Quand il a appris que tu sais il y avait un 5 ans, un cheddar, un 7 ans, puis un 10 ans, ça existait, puis que ça avait son âge, j'ai dit, ben voyons, on va pas manger ça. Il a découvert que c'était bon, mais tu sais, ça frappe l'imaginaire de l'enfant.
Tu vois, moi, c'est le contraire, ça marche pas chez nous, ça.
Non?
Faut pas que je dise que j'en ai mis dedans.
OK.
C'est juste une recette X.
OK.
C'est quoi les fromages dedans? Je te le dis pas. Parce que si je dis parmesan, il va dire, j'aime pas ça.
Ah, je comprends.
Mais s'il y en a dedans, je dis après.
Oui.
Il y avait du parmesan. Gna.
Ben c'est bon, parce que tu fais quand même... Non, mais en même temps, il faut utiliser différents trucs là, pour faire découvrir la nourriture aux enfants. C'est toute une question d'habitude. Là. Mais moi, je pense que Simon a beaucoup aimé cette aventure-là de découvrir, tu sais, pas à pas. Puis là, c'est un petit garçon qui aime beaucoup les fromages à pâte molle. Il a découvert ça, là, les bris, c'est quand même un fromage qui est assez facile. Là.
Oui, oui.
Mais je veux dire, il y a 5 ans, c'est un petit garçon qui mangeait des ficellos, là.
Oui,
Mais les enfants sont prêts à s'ouvrir à ça.
Est-ce que le danger, c'est de tomber dans les recettes faciles de fromage, parce qu'on en connaît, évidemment, le mac and cheese, le fondu au fromage, le grilled cheese, ou est-ce qu'il faut aller dans les... inventer des trucs?
Il faut faire les deux.
OK.
Il faut faire les deux, parce que en nourriture, moi, de l'école, qu'on ne peut pas manger tout le temps de façon gastronomique. C'est pas ça.
Non.
Surtout, je fais une cuisine qui est accessible, qui est facile, que les enfants vont avoir envie de manger. Donc, je pense qu'il faut faire les deux, parce que autant toi et moi, on a envie, à un moment donné, de manger quelque chose de plus sophistiqué, autant le lendemain, manger un super bon mac and cheese ou une fondue au fromage, c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît, mais on a le goût de manger ça, mais on ne sait peut-être pas nécessairement quel trio de fromages serait vraiment approprié pour faire un mac and cheese qui va être bon, tu sais, qu'on va pas rater notre coup. Ou pour une fondue au fromage aussi. C'est tellement le fun de faire une fondue au fromage avec les enfants puis de les faire râper le fromage, tu sais. C'est sûr qu'on peut les acheter déjà toutes prêtes à l'épicerie. Bon, déjà, si on choisit d'en prendre une québécoise, bravo. Mais faut être fier de ça.
Oui.
Sérieux, au Québec, là, on produit tellement des belles choses, là. Puis on n'a pas envié ce qui est fait ailleurs.
Est-ce que le défi, c'est de les trouver? Parce qu'évidemment, ils ne sont pas nécessairement tous partout. Qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas le fromage, par exemple, que tu mentionnes?
Oui, bien, c'était un de nos soucis au début. Puis finalement, on a découvert, mon Dieu, les comptoirs à fromage là, dans les épiceries, ça ne fait que grandir de plus
assurément,
en plus.
Assurément, ça prend de plus en plus de place, ce qui est une très bonne nouvelle, d'ailleurs.
Exactement. Puis là, on s'est dit, nous allons y aller de telle façon à ce que dans la recette, c'est un peu comme une suggestion qu'un sommelier fait. C'est-à-dire, mettons, dans le mac and cheese, on dit d'utiliser un type de cheddar avec un fromage à pâte ferme. On dit d'utiliser ça, ou un gouda, un type gouda. Après, dans le bas de la page, je ne sais pas si tu as vu, on donne nos coups de cœur.
Oui.
Mais au moins, on dit aux gens, voici... Dans cette recette-là, c'est un cheddar, un fromage à pâte ferme et un fromage type Gouda. Donc, eux, ont juste allé à l'épicerie. Puis, s'ils n'ont pas ceux qu'on a proposés, bien, ils peuvent en choisir un différent. Oui. Ça ne changera pas grand-chose. C'est un cheddar fort. T'sais. Un cheddar fort, ça reste quand même un peu dans le même type.
Je tiens d'ailleurs à souligner qu'il y a une fromagerie de la région.
Oui.
Le halloumi et légumes grillés, tu as choisi l'halloumi le bédouin de la fromagerie polyethnique, qui est pas très loin d'ici.
Mais eux, là, cette fromagerie-là, ça a été aussi une grande découverte pour nous, parce qu'eux, ils font des fromages qui sont moins standards, je te dirais, puis on savait même pas que ça se faisait ici. Là, on l'a découvert. Puis il n'y a pas la fromagerie Chalifaux qui est pas loin
aussi,
d'ici?
Aussi, ici.
Aussi. Ils font d'excellents produits, là. Donc,
qui est même sur la même rue.
Pour vrai?
Ouais.
C'est pas loin. Ah,
c'est bon. Tu vois l'étape du fromage
tantôt. C'est extraordinaire. Mais il faut être fier de ça. Puis juste de se poser la question une fois. Ah, tiens, je pourrais-tu essayer quelque chose de nouveau cette semaine? Puis tu sais, parfois d'en acheter peut-être un plus cher, mais de le goûter avec la famille. On fera peut-être pas nécessairement une recette, ou si on a envie de faire une recette,
on va le goûter standard, comme ça.
Oui, plein, avec un petit bout de baguette, là, puis on va faire aller nos papilles.
On travaille beaucoup sur le local au niveau des légumes. On insiste beaucoup là-dessus depuis quelques années, d'acheter local au lieu d'acheter des légumes importés. Ils sont plus frais, ils durent plus longtemps.
Oui.
Est-ce qu'on t'as l'impression qu'on pèse moins là-dessus sur le fromage? L'importance d'acheter ici?
Je pense pas, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Puis en même temps, c'est oui et non. Dans la publicité, on en parle beaucoup.
Ouais,
est-ce
ça.
Qu'on en parle entre nous? T'as un point. C'est vrai qu'on dirait qu'on parle plus souvent des paniers bio puis de la bouffe locale, mais en même temps, ça inclut les fromages.
Oui.
Puis tu sais, avec les ententes de l'ALENA puis tout ça, les produits de partout maintenant entrent. Puis je me dis, il faut protéger ce qu'on a. Pourquoi on s'amouracherait de produits qui sont faits à l'extérieur quand on peut trouver peut-être l'équivalent ici et faire de super belles découvertes?
Et encourager ces entreprises-là en même temps à grossir, à engager des gens.
Tout à fait. Tout à fait. On est allé à l'île aux grues. C'est où qu'on mange des pâtés croches, donc, au Québec? C'est-tu l'île aux grues?
Bonne question.
Savez-vous, vous autres, où on mange des pâtés? Non, en tout cas, je pense à l'île aux grues, en tout cas. Et eux autres ont des fermes laitières. Puis à un moment donné, les compagnies laitières trouvaient que, comme c'est des petites fermes, ils ne pouvaient pas atteindre les quotas, donc étaient un peu plus délaissés. Puis c'est une île, c'est plus difficile d'aller chercher le lait. Mais eux autres se sont regroupés ensemble pour devenir des producteurs de fromage. Fait que sur cette île-là, tout le monde travaille. Et il y a une grosse fromagerie, la fromagerie de l'île aux grues, qui marche super bien. Parce qu'ils se sont dit, tiens, nous autres, on a plein de familles ici qui ont des vaches, qui ont des troupeaux, qui produisent du lait. S'ils ne veulent pas notre lait, qu'est-ce qu'on fait? On fait du fromage. Et écoute, ça a grandi. Les familles se sont mises ensemble, ils ont comme une entente, puis ils produisent différents fromages, puis ça va bien. Mais ça fait que, sur l'île, l'économie marche super bien. Moi, je trouve ça, tu sais, puis des histoires comme ça, il y en a plusieurs, là, où c'était une famille qui faisait peut-être plus du lait, mais s'est tournée vers le fromage. Ils se diversifient, ils se spécialisent dans un produit, c'est différent, tu sais, ils ont une autre façon de produire aussi. Quand tu fais du lait, bien, c'est un autre système. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait une plus grosse ferme, puis... Je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais le fromage a permis à plusieurs producteurs de lait de vivre, mais en offrant un produit différent.
Annick, le livre est divisé en chapitres par thématique, ou en tout cas par thème de menu, entrée, etc.
Oui.
C'était clair que ça allait être comme ça pour toi, pour classifier ça, pour que ce soit...
Moi, je te le dirais, là, honnêtement, je trouve ça tout le temps difficile de savoir, parce que c'est pas si important pour moi, ça.
OK.
Tu sais, je suis obligée de le faire, mais pour moi, ce sont les recettes.
Ouais.
La recette est-tu bonne? Hein? Puis après ça, j'y vais tout le temps un peu de façon classique. Tu sais, entrée, tu sais, plats principaux, mais
est-ce que tu te mets un chiffre? Mettons, ça prend tant de...
Non.
OK.
J'essaie de mettre ça. Tu sais, moi, j'y vais tout le temps un peu à peu près. Un peu à peu près, quand je vois qu'il y en a assez d'un bar, il manque de ci, il manque de ça. Puis l'élaboration d'un livre de recettes, écoute, c'est tellement complexe, là.
J'imagine.
C'est plein de petits détails tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu viens épuisé à la fin. Puis, c'est un peu comme construire un tableau. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que tu vois où c'est équilibré et où c'est pas équilibré, où tu as trop de pâtes, puis ça prendrait plus de viande accompagnée, plus d'entrée, plus de peut-être quelques desserts. Puis, tu ajustes au fur et à mesure que tu construis ça. Et aussi dans les saveurs. Des fois, tu as des choses qui sont explosives, qui demandent un petit peu plus de temps de préparation. Puis là, tu dis, OK, wow, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde. À un moment donné, on veut quelque chose qui est plus simple, puis que le goût aussi est plus simple.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'il y a des jours où on a le goût de manger quelque chose de plus ordinaire. Et ça se fait tranquillement. Là où ça a été, pour moi, plus difficile, où j'ai vraiment plus réfléchi, c'est dans comment je vais faire pour proposer des fromages. Donc, de le mettre un peu en suggestion. Et comment les choisir?
Ah oui, ben oui.
Parce que là, quand on découvre tout ça, je suis comme, ah, ben là...
Il y a de l'offre, là.
Oui, il y a de l'offre. Puis, je voulais aussi vraiment me fier à nos coups de cœur, c'est-à-dire les coups de cœur que j'ai eus dans cette étude-là pendant un an, et les coups de cœur de Pierre Vigeant aussi, mais de faire le tour du Québec, de faire attention pour dire, hey, est-ce que j'ai fait attention? Est-ce que
chaque
j'ai
région?
Oui,
okay.
Parce que moi, je m'en vais, là... Tu sais, comme je fais 50-60 villes par année.
Tu n'as pas parlé de notre région?
Bien, ma peur n'était pas celle-là, mais je les vois, les fromageries.
Oh oui.
Luc, on est dans un petit village. Tu sais, quand je dis, là, dans le village, il y a...
Il y a des dépanneurs, il y a des fromages.
Les fromages sont là. Il y a des petits fromages, des petites crottes de fromage sur le comptoir du dépanneur. Ça veut dire qu'il y a une fromagerie dans le coin.
Oui.
Puis souvent, cette fromagerie-là fait un petit trésor elle fait pas juste des crottes de fromage. Ils font toutes des crottes de fromage quasiment. Mais ils font un petit fromage à pâte ferme. Oh, un petit fromage à pâte molle. Quelque chose de différent qui a besoin d'être connu, goûté. Donc, tu sais, je voulais pas comme oublier, mettons, l'Abitibi au détriment d'une autre région où j'en avais déjà choisi 10 dans ce secteur-là. Parce que c'est une richesse qui est vraiment implantée partout au Québec. Tout le monde aime ça partout. En Gaspésie, on en fait partout. Ici, tu sais. Et je voulais avoir cet équilibre-là de choisir un peu partout. Différents fromages qui viennent de partout et qui sont disponibles.
Oui. Combien y a eu de fromages en même temps dans ton frigo?
Écoute, j'ai deux fromages. J'ai deux frigos. Et hey, ça coûte cher hein, quand même là, quand tu achètes des grandes quantités.
Ben,
tu en fais beaucoup. Là, écoute, tu ne veux pas les perdre. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas tous les manger. Il y a quand même une date, ça se congèle, mais j'en ai donné. Mais j'ai eu deux frigos bien pleins.
De fromage.
Mais c'est parce que quand t'as deux frigos très, très pleins, là, c'est l'odeur.
Oui.
À chaque
puis,
fois, tu
ça veut pas dire qu'ils se mixent tout très bien, les odeurs?
Non. Puis ça sentait les petits bas, là, chez nous, là. C'était incroyable. Simon était ben, maman, ça n'a pas de bon sens. Puis, honnêtement, après 8 mois, là, je commençais à trouver que ça sentait tout le temps un peu trop fort. Parce que, bon, tu sais, quand t'en as 4-5, c'est beau, tu peux les ranger,
oui.
Tu les mets dans un contenant hermétique, bon, ça en... Mais là, à un moment donné, je pouvais plus, j'en avais trop, puis on faisait des tests, puis ça chantait. Là, je me disais, si quelqu'un entre chez nous, puis on a laissé les portes, il va dire, mon Dieu, ça sent bizarre dans cette maison-là, mais on était en étude de fromage.
Pour un livre de recettes, la photo, c'est très important.
Oui.
Parce qu'on met beaucoup de temps.
Oui,
là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, la semaine dernière, on avait Marie-Joanne Boucher qui fait aussi des livres de recettes qui était ici.
Oui.
Puis elle nous disait qu'il y a des gens qui achètent les livres de recettes et qui ne cuisinent pas.
Oui.
Ça devient un livre de photos.
Oui. Bien, il y a beaucoup de gens, puis tu as tellement un point important, que c'est un moment de détente. Puis au lieu de le regarder sur la tablette, le fait que tu l'aies dans les mains, il y a quelque chose de tellement réconfortant et pacifiant de feuilleter un livre de recettes, de se dire est-ce que j'aimerais ça? Puis parfois, juste la photo, tu ne seras peut-être pas cette recette-là, mais tout de suite, ça te donne un signal que tu as envie de cuisiner tout d'un coup des pâtes. Donc, c'est bon parce que moi, je me dis, l'important, c'est un peu cuisiner dans la vie. Ne laissons pas l'industrie tout faire pour nous.
Non.
Tu sais, il faut... Puis c'est stimuler l'intérêt de... C'est comme un gars qui tripe sur les voitures, qui s'achète le guide de l'automobile, il va pas aller s'acheter tous les chars. Bien, c'est un peu la même chose avec les livres de recettes.
Tu vas pas tout faire les recettes.
Bien, c'est sûr que non, tu sais. Toutes celles que je mets, moi, dans mes livres, je les adore. Mais je le sais, j'en achète tellement. J'ai tous les livres de Jamie Oliver. Tu sais, j'ai une passionnée. Mais j'y fais pas tout. Je feuillette, ça m'inspire, j'ai le goût de cuisiner. Ça nous rappelle que oui, c'est bon de mettre des légumes puis d'arrêter un peu d'être paresseux. Parce que quand on cuisine pas, c'est parce qu'on est fatigué.
Mm-hmm.
Puis tu sais, je veux dire, tout le monde, on travaille fort puis on peut pas taper sur la tête. Mais des fois, de dire, ah, regarde, je sais que je travaille puis je suis fatigué, ça me tente peut-être pas de faire la vaisselle, mais on va faire quelque chose juste de simple.
C'est ça, d'où l'importance d'avoir des recettes simples dans ce livre-là, parce que
exactement.
Tout le monde est dans un train de vie de fou.
Oui, puis
on n'a pas le temps de mettre
4 heures
sur une recette.
De prendre ce temps-là, de se faire... Tu sais, au pire, allez juste une fois dans la fin de semaine. Faites-vous une petite bouffe tranquille. C'est le plaisir de la vie, là, le contact avec la bouffe.
Qu'est-ce que tu as appris avec Pierre?
Écoute, lui, il est tellement
extraordinaire. Parce que là, toi, tu as appris à cuisiner de façon autodidacte.
Oui.
Tu n'as pas pris de cours.
Non.
Là, d'avoir quelqu'un qui fait ça dans la vie.
Non, moi, je suis vraiment une bonne vieille, la vieille, avec ma mère puis ma grand-mère, puis c'est des bonnes cuisinières. Puis Pierre Vigeant, lui, il est exceptionnel. Premièrement, il y a un service de traiteur sur les plateaux de tournage.
Okay.
De plein de téléséries.
C'est lui qui fait le craft.
Oui, puis il est aimé parce que sa bouffe est tout le temps formidable et merveilleuse. Puis il est ingénieux. Et j'ai appris plein de trucs. En fait, lui, c'est il faut pas avoir peur.
Essayons,
c'est
puis
pas comme
si
la pâtisserie.
On se trompe pas.
Ben, tu peux pas vraiment te tromper.
Okay.
Tu sais, je veux dire, peut-être que la sauce va moins bien prendre. Puis, tu sais, je veux dire, on a tous le droit à l'erreur. Moi, la première fois, j'ai fait un roast beef. Ça ressemblait beaucoup plus d'un ballon de football que d'un roast beef, tu sais. Puis, ça m'a pris une couple de fois avant qu'il soit bon, mais c'est comme dans tout.
Oui.
Donc, il faut pas avoir peur. On regarde la recette, on fait pas comme, oh mon Dieu, ça a l'air trop compliqué. Puis, des fois, ben, c'est pas tout à fait comme sur la photo ou, mais l'autre fois d'après, puis une fois qu'on la maîtrise.
Jamais comme sur la photo. La photo est retouchée 25 fois.
Oui. mais une fois qu'on maîtrise cette recette-là, comme les recettes que nos mères faisaient.
Bien sûr.
On peut quasiment plus la rater. Tu sais, je pense que des fois, les gens reçoivent, font une recette qu'ils n'ont jamais faite, puis ils sont comme, c'est ordinaire. Mais oui, mais t'es-tu pratiqué avant? L'avais-tu déjà fait? c'est comme ça aussi dans la bouffe, tu sais, il faut se donner le temps. Entre autres, il y a une recette de pétanque avec une sauce crémeuse dans laquelle il y a du fromage que j'ai demandé à Pierre. J'ai dit, moi, ça, j'ai mangé ça à Sept-Îles. C'est extraordinaire, mais je ne la connais pas, la recette, puis je suis pas à l'aise. Mais on va faire des tests. Donc, c'est de ne pas avoir peur. Ça prend à peu près ça. On fait une béchamel, on met le fromage, on met du cognac. Et c'est excellent. C'est une de mes recettes préférées. Je pense que ne faut pas avoir peur. Puis je te dirais que... Bien là, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir me tirer des tomates, là, mais les hommes en cuisine se posent beaucoup moins de questions. On dirait qu'ils cuisinent instinctivement. Ils ont quelque chose. Ça lance les affaires dans la casserole, puis ça marche. Tout, on fait comme un peu attention. Oh, petit, puis ça. Trouvez-vous? Oui, dis-oui, assis-là. Puis c'est ce qu'il faut faire un peu aussi. T'sais, on a la recette devant nous. Si on la subit, ça ne sera pas une catastrophe, là. À moins que tu l'oublies sur le rond, là.
Oui. Ta recette coup de cœur, ça serait laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui se démarque?
Bien, les pétanques, sauce à la crème. Il y a aussi les coquilles. Ça c'est... Les familles adorent ça. C'est des grosses coquilles dans lesquelles il y a du fromage, il y a des épinards, il y a de la viande. Les gros portobello, ça, Simon aimait ça. C'est des gros champignons, là.
Oui.
Puis d'habitude, les enfants n'aiment pas les champignons.
Non, effectivement.
Et ils sont farcis. Puis Simon, il a adoré ça. Mais
j'ai rien à dire. Et le coup de cœur de Simon, ce serait quoi?
C'est tout le temps les pâtes.
Oui, bien sûr. Les enfants, c'est dur de se tromper avec des pâtes.
Un mac and cheese, puis les coquilles aussi, qui adorent.
Ça te fait quoi quand tu l'as dans tes mains, le livre, après?
Celui-là,
je sais
pas.
Il y a beaucoup de travail.
Non, non, mais lui, magnifique. As-tu vu comment il est beau? Regarde, juste à l'intérieur, j'ai tellement agacé...
Regardez à la maison.
Quand on ouvre la première page, il y a un tableau noir dans lequel on a fait des petits dessins à la craie.
Oui.
Et c'est des souris. Puis je voulais avoir ça, là, ici, qu'on appelle une première page imprimée.
Oui, oui.
Ça coûte un petit peu plus cher. Et j'ai agacé les éditions la semaine pour avoir ça, parce que je trouve que tout de suite, hop, regarde, c'est chaleureux.
Oui. Et la réponse des éditions, c'est toujours ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher. Oui, mais c'est ça que je veux. Fait que... J'ai un ami qui m'a dessiné des souris, parce que les souris adorent le fromage. Puis, tu sais, ça, c'est mon chat.
Okay.
Il y a un chat qui est dessiné, c'est mon chat. Je l'ai vraiment personnalisé. Ça, c'est Simon. Il y a une souris, c'est Simon. C'est une souris qui joue au hockey, parce que mon fils joue au hockey. Mais tous les détails finaux, qui sont des choix de papier, de dessin, comme je t'ai montré,
ouais,
là, de la couleur, de mettre beaucoup de noir, de l'écrire fromage en turquoise. C'est des détails qu'on fait, nous, tu sais. C'est ici la mise en page, que ce soit noir ici quand on a besoin d'un encadré dans la fenêtre. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est sûr qu'il y a une graphiste, une artiste graphiste, Lynn, avec qui j'ai travaillé. Mais c'est moi qui décide à la fin. C'est mon livre. Donc ça, pour moi... C'est comme un cadeau à la fin, de choisir le papier, que ce soit moi cette année. Tu sais, je trouve... Lui, là, quand je l'ai eu dans mes mains, j'ai vraiment fait « Oh, wow! » J'ai comme gradué.
Okay.
Tu sais, si je le compare avec mon premier, je le trouve beau. Je suis comme fière. J'étais comme, wow. Le premier, quand je l'ai eu dans mes mains, j'étais comme tellement surprise. J'étais comme « Oh, j'ai fait un livre de recettes, c'est bizarre. » Mais celui-là, j'ai comme, c'était un coup de cœur, là. Là, il est beau. C'est un livre qui est magnifique. Puis en plus, le fait qu'on parle de plusieurs, plus près de 80 fromageries à travers le Québec, je suis comme fière de ça. Puis j'ai des expériences de vie. Ah, puis as-tu vu des photos de moi,
oui,
sur la route? Beaucoup, beaucoup de photos, parce que je me promène depuis 9 ans partout au Québec. Donc, je sais pas, je l'aime. Il est beau aussi.
C'est vrai.
Trouves-tu?
Oui, magnifique. Annick, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a 20 ans cette année, tu faisais tes débuts à Salut Bonjour Week-end.
Oui.
97.
Oui, c'est vrai. Il y a 20 ans. C'est incroyable, hein? Le temps passe tellement vite. J'ai fait Salut Bonjour la semaine passée.
Pour les 30 ans de Salut Bonjour.
Oui, puis ils ont montré des images, puis quelqu'un me dit « Ah, c'est toi, mon Dieu! » Je vais être donc bien long. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 14 ans, là. Mais le temps passe tellement vite. Je sais, c'est comme troublant. J'ai de la misère à croire ça, tu sais. Puis en même temps, je me dis... Travailler dans ce milieu-là, c'est le fun, mais de durer dans ce milieu-là,
oui, oui,
c'est exceptionnel. Puis, je travaille encore. Moi, dans un milieu incertain où tout le monde me dit, « Bien, voyons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner ta vie en faisant ça. Deviens sérieuse, petite fille. » Mais, oui.
Tu offres une day job, comme ils disent. Ouais.
Oui, mais non, mais honnêtement, c'est un beau cadeau de la vie. Mais ça passe vite. Hein.
C'était quoi tes ambitions de carrière, à 20 ans?
Moi, c'était ça. Moi, là, à un moment donné, il y a 2 ans, je fais comme moi, sais-tu quoi, j'ai vraiment réalisé ce que je voulais faire dans la vie. Premièrement, parce que j'habitais fin fond Bagotville, à côté de la terrière, sur une base militaire, où ça sentait tellement les vaches l'été qu'on voulait pas sortir dehors. Et Montréal était loin. On venait à Montréal voir de la parenté, puis on capotait, moi et mes frères, de juste voir des autoroutes éclairées. OK? Et là, je me disais, moi, mon grand rêve dans la vie, là, c'est d'habiter Montréal. Montréal, pour moi, c'était... Je me disais, si un jour j'habite à Montréal, je vais tellement être heureuse, la grande ville, tu sais. Je me souviens des fois, ma mère venait nous montrer, quand on venait à Montréal, Sainte-Catherine la nuit, puis il y avait comme les beaux magasins, mais il y avait aussi comme, ouh, peut-être les guédounes du coin des rues. Il y avait quelque chose... Non, mais c'était la grande ville, tu sais, c'était quelque chose, c'était magique, c'était New York, là. Puis je me disais, moi, c'est ce que je veux faire, et je veux faire de la télé. Mais ça, c'était secret. Parce que quand t'es jeune, puis t'arrives puis tu te trouves un peu laide, ben tu dis pas ça, parce que tu dis, les gens vont dire, ben regarde, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle va vraiment travailler en télévision. Donc, c'était comme un grand rêve secret. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? J'habite à Montréal, puis je travaille en télé. Puis, les gens veulent toujours te dire, ouais, mais qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Que t'aimerais pas ça avoir? C'est... Non, moi, je rêvais vraiment de ça, puis j'ai réussi. Et ça n'a pas été facile. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y en a plein qui veulent faire ce chemin-là. Tu sais, j'ai étudié, j'ai fait un bac en communication, j'ai travaillé à la télé communautaire, j'ai commencé à Hull. Oui, mais...
au Québec.
Ouais. C'est, à un moment donné, après Ottawa, Hull, là, je suis arrivée à Montréal, mais j'avais 27 ans. J'avais 27 ans, puis je rêvais de ça à 7 ans, tu sais. Donc, pour moi, c'était ça mon grand rêve. Puis ensuite, de posséder une maison et une piscine creusée, puis ça, je l'ai aussi.
Mais est-ce qu'il y a un bout où tu t'es dit ça ne marchera pas? Vu que ça a été si long que ça, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça n'arrivera pas?
Il y a un moment où je commençais déjà à travailler, mais je gagnais si mal ma vie que, après, je te jure, là, je faisais vraiment le fond de poche de tous mes manteaux, de mes sacoches. Je vérifiais en dessous des bancs pour me trouver une pièce pour aller m'acheter deux roteux chez Valentine pour me nourrir, pour te dire à quel point j'étais mal payée. Mais au début, quand tu commences, t'as une mauvaise paye, là, tu sais.
Oui.
Et mon comptable m'avait dit, j'étais comme, ah, je dépense trop. Il dit non. Il dit, tu gagnes pas assez. Tu gagnes pas assez d'argent. Ce que tu fais comme travail, c'est pas assez payant. Tu sais, on le sait, le bottin de l'Union des artistes, il y a une grande partie de gens qui font...
Ils font autre chose.
Qui font, oui, ils font autre chose, parce qu'on ne gagne pas bien notre vie quand on commence, puis quand on a juste des petits contrats. Puis il y a eu un moment donné, je me souviens, j'étais dans la douche chez ma mère, parce que j'avais un contrat, puis je devais être à Québec. Puis je m'étais dit, OK, j'ai fini de me battre. Je suis plus capable, je ne gagne pas bien ma vie, je vais mourir de faim, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'arrête. Puis... J'étais comme résignée. Je me disais, je trouvais d'autres choses. Puis là, j'ai eu un autre contrat. Un contrat avec Gabriel Gélina,
okay.
Automag, ouais. Dans le temps. Donc, tout de suite, ça me donnait comme juste le petit plus là, pour être capable de faire une épicerie qui avait de l'allure. Là, je fais, OK, je vais continuer encore un petit peu. Mais tu sais, quand t'as un grand, grand rêve, tu y vas, puis même si c'est pas payant, tu continues, puis tu rêves, puis à un moment donné, juste quand tu es sur le point de décrocher, puis ça arrive à beaucoup de monde, il y a quelque chose qui te raccroche. Mais puis après, non. Puis après, ça a toujours été de mieux en mieux, puis j'ai toujours trippé, puis j'ai toujours eu des jobs le fun, puis j'aime ce que je fais, puis je me trouve choyée, puis des fois, tu sais, à la blague, je me dis, oh, écoute, c'est compliqué, là, les médias. J'aurais pas pu être un docteur, j'aurais bien gagné ma vie, mais j'aurais pas pu être un docteur. Parce que la seule chose que j'avais envie, c'était de faire ça. Donc, ben, tu le sais, tu vas dans ce milieu-là. Il faut être passionné là, quand on commence parce que sinon, tu fais pas ça.
Mais en même temps, c'est des belles valeurs que tu inculques à Simon aussi. C'est de dire, lâche pas, crois en ce que tu veux.
Il faut oser, c'est ça. Même si c'est pas standard, même si t'es pas dans les horaires classiques, même si, tu sais, avoir un enfant, moi, avec l'horaire que j'avais à Salut Bonjour, puis après ça, sur la route avec la roue de fortune. Il n'y a personne qui t'a dit comment tu vas faire, là. Puis il n'y a rien qui est installé dans la société non plus pour te faciliter la tâche. Mais à un moment donné, quand tu es dedans, on dirait que tu t'organises. Le monde qui sont importants pour toi, on est débrouillard dans la vie, puis on voit toujours ça plus gros que quand on traverse vraiment l'événement. Une fois dedans, mais tu t'organises, puis ça va bien. Mais tu as raison, il faut oser vivre puis affirmer ce qu'on a envie de faire. Ce qui n'est pas toujours évident parce que des fois, c'est comme épeurant.
Dans ce parcours-là arrive Opération Enfant Soleil, pour laquelle tu t'impliques depuis déjà plusieurs années.
Oui.
C'est important pour toi de donner ce temps-là, d'être avec eux, d'aller faire les remises des octrois un peu partout au Québec?
Bien, moi, j'ai toujours, depuis même très longtemps avant Opération Enfant Soleil.
Ça fait 15 ans, Opération Enfant Soleil, pour toi cette année?
Oui. J'ai toujours fait du bénévolat. Puis quand j'étais à Québec, à un moment donné, c'est Pierre Touzin, le fondateur, qui. Puis tu sais. ça fait 15 ans, là, je veux dire, il y a 15 ans, je suis peut-être moins connue que maintenant, mais que le fondateur m'appelle et qu'il me dise « Annick, sais-tu quoi? T'es bonne avec le public parce que à Salut Bonjour, je travaillais avec le public dans la rue. Eh oui. J'aurais besoin d'une petite animatrice pour recevoir les chèques. Parce que c'est des gens du public. T'es à l'aise, ça va vite, j'ai besoin d'une autre animatrice. Voudrais-tu faire ça? » Et j'étais comme tellement touchée. J'étais comme, oh, il veut moi? Vous me voulez maintenant? Puis il dit, ben oui, c'est ce que je viens de te dire. Ben oui, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que ça demande comme engagement? Puis il m'avait dit, bon, ben, je sais pas, moi, tu vas avoir des activités à faire tout au long de l'année, puis le Téléthon. Mais quand tu regardes ça, cette cause-là qui est dans les causes chouchou des Québécois, je me dis, les Québécois sont vraiment hot. Tu sais, il y a eu un concert, là, il y a eu un Téléthon d'une heure pour Houston, pour... Puis c'est les États-Unis au complet, c'est sûr que c'est juste un an, mais c'est les États-Unis au complet qui pouvaient donner. Puis ils ont pas eu tant que ça. Puis je me dis, nous autres, là, on est capable de ramasser 18 millions. Les Québécois donnent 18 millions pour la santé des enfants. C'est beau ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une priorité, puis qu'on veut que nos hôpitaux soient pas des hôpitaux mal foutus, qu'on aimerait ça avoir des appareils qui sont adaptés et à la technologie du jour. Puis je trouve que ça démontre à quel point les Québécois, tu sais, sont fiers de leur famille, puis les enfants, c'est important, puis c'est une belle cause qu'on va donner. Ils sont généreux. Tu sais, le Québécois, il est généreux. Moi, je sais, je suis sur la route, là, puis je les vois, puis les gens sont super gentils, ils nous laissent entrer, ils nous offrent un café. Puis, tu sais, souvent, quand tu le demandes, ils donnent. Mm-hmm. Et je pense qu'avec cette cause-là, on le voit année après année, puis c'est tout à l'honneur d'Opération Enfant Soleil. Je veux dire, la cause est vertueuse et ceux qui y participent, c'est le public. Puis les gens sont généreux.
Depuis 9 ans, tu fais tourner la roue à des gens. Mm-hmm. Comment c'est arrivé ça dans ta vie d'abord, la roue de fortune?
C'est arrivé un pur hasard où on m'a appelé et on m'a offert ça. Okay. Et ça tombait tellement bien parce que je te dirais que ça faisait un an que j'étais retournée à Salut Bonjour après mon congé de maternité. Et de travailler de nuit avec un petit enfant. Quand j'ai recommencé à faire « Salut, bonjour », Simon avait 11 mois. Mais de se lever à 2h30 du matin, j'ai fait un an, puis je suis presque tombée à genoux à un moment donné dans ma salle de bain et demandé, je pense qu'il faudrait que j'aie un autre contrat avec des horaires différents parce que j'étais comme plus capable. J'étais vraiment fatiguée, mais j'étais pas capable de m'en aller parce que j'aimais trop... Moi, « Salut, bonjour », là, j'ai eu du fun, là, fun noir.
Mais c'est pas un horaire de famille.
Non, pour moi, c'était très difficile d'être à l'extérieur. J'ai vraiment fait à un moment donné comme, oh my God, il faudrait que je fasse peut-être autre chose pour mon équilibre mental et celui de ma famille. Puis là, 2 mois après, on m'appelle, est-ce que tu aurais envie de faire ça, d'animer? On change, la roue à l'époque était à TQS, on revient à TVA, on veut complètement changer la formule, puis on aimerait t'avoir peut-être comme animatrice si ça t'intéresse. Mais voici ce que tu devras faire, c'est sur la route.
C'est toutes les fins de semaine.
À l'époque, on faisait 80 villes par saison, là on en fait 55, mais 80 c'était fou là, mais tu vas dormir. J'ai comme, intéressant. J'ai demandé...
Mais tu ne seras pas là la fin de semaine. Il y a un autre sacrifice.
C'est non, pas chez toi c'est ça. Mais au début, on ne savait pas ça. Parce qu'au début, on ne savait pas comment la nouvelle formule allait fonctionner. Mais j'ai dit, je peux-tu prendre un mois pour y réfléchir? Et dit, une semaine. J'ai dit, non, c'était trop difficile de partir de Salut Bonjour. J'ai pleuré là, pendant un mois. De mon deuil de Salut Bonjour, je ne voulais pas m'en aller, j'avais du fun. Puis finalement, j'ai fait, non, faut que je m'en aille. J'ai fait le tour aussi, tu sais, parce que j'ai été 5 ans la semaine, 5 ans la fin de semaine, en disant, je suis comme, bon, je pense que, tu sais, quand ça fait 10 hivers que tu t'en vas glisser, premier hiver, c'est super le fun. Les 3 premiers aussi. 5, 6, 7, t'es comme, oh, c'est pas pire. 8, 9, 10, t'es une bonne comédienne.
Youpi!
Youpi! Il fait moins 30 et c'est le fun. Non, mais j'avais beaucoup de plaisir, c'est pour ça que ça a été difficile de quitter, mais j'avais fait le tour peut-être. Mm-hmm. Donc, j'ai accepté, puis je m'ennuie du direct et ma fratrie de « Salut, bonjour » va toujours être un endroit très particulier dans mon cœur. Écoute, ils m'invitent, puis je jubile, je suis contente, là. Mais pour mon équilibre, puis pour ma famille, et pour Simon, c'était cool. C'était comme un cupcake qu'on m'a offert. Tiens, voici, tu pourrais faire ce contrat-là.
C'est la même roue depuis la première année?
Non, là, okay. Elle a changé. Okay. Depuis que l'animatrice a changé, la roue est plus généreuse.
Mais le gros lot était plus. C'est la même roue physiquement? Depuis que tu es là.
T'as raison.
On l'a pas modifié, on l'a pas changé.
Non, c'est la même roue parce que ça coûte très cher faire une roue comme ça qui est calibrée, qui a un poids spécifique, qui tourne très bien, que Deloitte et tout je surveille puis que c'est legit. On change juste
les montants, puis les montants, le décor.
Puis la façon dont elle est composée. Mais quand on a commencé, moi, le gros lot était de 250 000. Il est passé rapidement à un demi-million, puis maintenant, il est d'un million de dollars. Et puis, je dois te dire qu'à ma neuvième année que je viens de compléter, c'est l'année où on a vendu le plus de billets. On capote! On a vendu genre deux fois plus de billets que toutes les années précédentes, puis ça allait super bien avant.
Qui s'explique comment?
On ne sait pas. OK. Oui, le monde aime ça. Et les gens aiment les histoires. On est en première position presque tout l'été.
Oui, vous avez scoré fort dans les cotes d'écoute. J'ai vu ça sur ton Facebook cet été.
Les gens écoutent, puis je pense que
c'est une très courte émission. C'est rare que ça se démarque dans les codes d'écoute, ce genre de courte émission.
Exactement. Mais je pense que les gens n'ont pas le temps. Tu sais, des fois, quand l'émission est trop longue, tu dis « Ah, je ne commencerai pas à écouter ça parce que je vais être pogné devant la télé, je vais l'écouter jusqu'à la fin. » Mais ça, c'est 3 minutes. Tu ne peux pas dire ça. C'est pas ça que je n'ai pas le temps de l'écouter. C'est pas vrai. Tu as le temps. C'est 3 minutes et demie. Puis ça pique la curiosité des gens. Puis les gens reconnaissent un peu mon oncle, ma tante, puis peut-être leur soeur, leur belle-soeur. Puis ils veulent savoir.
Cette année, la saison débutait alors que le Québec, en partie, était inondé suite à tout ce qui s'est passé. Comment c'était pour vous autres? Êtes-vous allé à des endroits qui étaient inondés?
Oui. On a eu un gagnant qui, lui, complètement inondé. Sa rue, eux autres habitaient tout le quartier dans un motel. Puis on est allé faire le reportage justement là. Tout le monde habitait dans ce motel-là.
Ça fait bien un montant d'argent dans une situation comme ça?
Oui, parce que c'est long. Oui. Puis tu sais... ce que le monsieur nous expliquait, c'est que eux autres, ils sont comme à ce moment-là sur un genre d'adrénaline qui les maintient, qui leur dit « OK, la famille, il faut qu'on se tienne, il faut pas qu'on se lâche, il faut qu'on se détruise. »
Non, c'est ça.
Tous émotivement. Puis tu sais, les ressources, c'est long avant d'arriver. Les ressources financières, je parle, ouais. Après les remboursements, puis l'aide. Puis il était très lucide, là, mais tu sais, il dit « Dans un an, ça va être encore difficile. » Parce qu'on va être vraiment, vraiment fatigué, là. T'sais, fait que c'est un long parcours pour eux autres, puis c'est pas facile. Puis je crois que ce montant-là, il l'aurait donné juste pour pas être obligé de vivre cette épreuve-là. Je pense.
Ouais, je comprends. Il aurait changé ça.
C'est difficile pour ces gens-là. C'est vraiment quelque chose.
C'est comment donner 1 million à quelqu'un?
C'est vraiment bizarre. Ça passe dans ma main, puis c'est pas là longtemps. C'est
Parce qu'en plus, tu as le droit, toi, d'acheter des billets, si tu veux.
Oui, ben oui, j'ai le
Donc,
droit.
Donc, tu pourrais tourner la roue.
Je pourrais tourner la roue, oui, puis j'aimerais ça. Et j'en achète, toute l'équipe en achète, partout, on se promène partout à travers le Québec, parce que souvent, tu dis, ah, peut-être que je vais avoir plus de chance. Comme moi, là, tantôt,
ah oui, okay,
j'ai acheté un billet avant de partir.
Okay.
Oui, là, il y a des...
Voir ta ville chanceuse.
Oui, mais c'est curieux, parce que tu sais que les gens t'oublieront jamais.
Non, tu changes leur vie. Oui.
Et tu souhaites que ça aille vraiment pour le mieux. Parce qu'un petit montant, quand je donne, mettons, le plus petit montant de la roue, le lot de départ, 25 000 $ ça ne fera pas de chicane.
Non, il n'y a rien d'impliqué.
Ça ne changera pas grand-chose. Ça va alléger peut-être un fardeau sur leurs épaules, leur amener peut-être la réalisation d'un petit rêve, comme s'acheter un sport, je ne sais pas, un petit voyage. Mais plus le montant est gros, tu leur souhaites que ça aille bien. Puis je pense que les Québécois ont encore une grande... réflexion à faire là-dessus, puis une grande évolution par rapport aux sous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore jaloux de la réussite des autres.
Puis tout le monde est autour de toi quand tu tournes, fait qu'ils savent tout que tu as gagné.
Oui, et peu importe la réussite.
Oh, oui.
Tu sais, que tu gagnes à la loterie ou que tu réussisses bien dans la vie.
On a de la misère avec ça.
Moi, j'entends ça des fois, la rue des endettés, où il y a des grosses maisons. Je suis comme, ils ne sont pas endettés, c'est du monde qui sont déjà riches. Puis ils sont comme vous et moi, puis ils mangent la même affaire, puis ils sont aussi fins. Fait qu'il y a beaucoup quand même de préjugés face à l'argent. Et puis, c'est pas correct, ça. On devrait tout passer ça. Puis, moi, quelqu'un qui remporte beaucoup, je suis vraiment contente pour lui. Je lui souhaite que sa famille soit généreuse avec lui, dans le sens qu'elle lui laisse le temps d'absorber ce qu'il a remporté, puis il ne la gasse pas. Puis, tu sais, les demandes à droite puis à gauche de la cousine et de la cousine éloignée, il paraît que ça existe encore.
Oui, c'est sûr.
C'est bizarre. Mais ça prend du front, tu sais.
Oui.
Fait que, moi ça plus on donne un gros montant, plus on est content. Parce que tant mieux pour eux autres. Puis, tu sais, ce qui est touchant aussi au Québec, c'est de voir à quel point il y a beaucoup de familles qui travaillent fort puis qui n'ont peut-être pas encore vraiment pris des vacances familiales.
C'est vrai.
Hein? Mais ça m'a surpris. Je pensais que les gens avaient plus les moyens de... Mais non, les Québécois, ils travaillent fort puis c'est pas tout le monde qui sont... Souvent, ça leur permet de se payer une petite... Puis, tu sais, ça nous fait plaisir.
Vas-tu fêter ta 10e année? L'an prochain? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour souligner ça? Est-ce qu'on va remontrer des archives de
je
toi?
Je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai déjà un patron qui m'a déjà demandé « Qu'est-ce que tu veux pour ta 10e année? » J'étais comme, oh, qu'est-ce que je veux? Je sais pas, laisse-moi y penser. Je sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que jamais j'aurais écrit faire 10 ans. Jamais. L'année 1, j'ai tellement trouvé ça
c'est beaucoup.
Différent puis difficile. J'étais comme, oh, je sais pas combien de temps je vais faire ça. Puis là, plus le temps passe, moi, maintenant, j'embarque dans la voiture puis je suis, là. Même si on fait, je pense, ça fait à peu près en kilomètre, 7 fois le tour de la Terre qu'on fait. C'est fou. Mais maintenant, je suis. Tu sais, ma vie, était, je suis habituée.
C'est moins déchirant. L'enfant est grand aussi. Simon est grand maintenant. Donc,
Oui, puis j'ai ma façon de faire. Tu sais, son père est là. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère exceptionnelle qui est très présente, qui a été l'unique gardienne de mon fils avec ma belle-mère. Si je me fais garder par personne d'autre. Puis si je le faisais, elle serait sûrement frue parce que c'est elle la gardienne officielle. Elle adore au bout. Mais ça se passe super bien. Tu sais, je me suis habituée. Ma vie est toute organisée avec ce travail-là. Donc, c'est extraordinaire. C'est juste que je peux pas croire que ça fait 10 ans. Mais l'heureuse conclusion de tout ça, c'est qu'en 10 ans, je peux encore mettre les robes de l'année 1. Je rentre encore dedans. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une excellente nouvelle.
C'est une excellente
T'as
nouvelle.
T'as pas trop mangé de fromage.
ça, c'est une affaire de fou.
Annick, merci d'avoir été là.
Merci beaucoup de l'invitation. Merci aux gens qui sont là aujourd'hui. Il y en a qui étaient venus l'année passée. Je les salue, ils sont super fins.
Merci beaucoup.